c'est parti.
Bon, bonsoir à tous pour cette rentrée et reprise du cours sur les rapports entre art et politique. Alors, comme vous allez le voir, on entre dans la partie résolument cinématographique de ce cours. C'est-à-dire que, je vais résumer pour ceux qui n'étaient pas venus avant, on a fait 6 séances qui avaient pour base la lettre à D'Alembert de Rousseau, la République de Platon et la poétique d'Aristote. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas du tout d'une lecture suivie, mais d'utiliser ces textes sur différents problèmes qu'on a rencontrés, qu'on a enchaînés, et pour parvenir en fait à les placer maintenant sous l'angle en quelque sorte cinématographique plus spécifiquement. Mais avant, en fait, comme il s'agit d'une reprise, il me semblait nécessaire de rappeler quelques points, c'est-à-dire à la fois ce qui constitue la problématique générale de ce cours et, entre guillemets, les acquis des séances de l'année passée, enfin, l'année scolaire passée. Et donc, en résumé, donc forcément en un peu schématique, la problématique, ce qui a été explicité lors des cours précédents, et donc ce sur quoi je ne vais pas revenir, en fait, c'est l'idée globale, je vous demanderai d'accepter maintenant, que toute œuvre tient un discours, toute œuvre d'art tient un discours, qui en tant que tel véhicule forcément des valeurs, des modèles, et donc a le pouvoir de nous changer par l'oreille qu'on lui prête. En conséquence de ça, et c'est le lien justement entre, on va dire, la problématique morale et la problématique politique, c'est que du coup il semble logique qu'une société juste doit se soucier de l'art qui s'y fait en ce qu'il est une éducation de ses citoyens. C'est-à-dire que si cette société désire effectivement rester juste, elle doit se soucier de ce qui est donné comme modèle, non pas au nom d'une morale préétablie, mais plus précisément parce qu'il y aurait une sorte d'aberration, quelque chose d'absurde, à considérer qu'elle pourrait se laisser ainsi s'autodétruire en ne se souciant pas finalement de ce qui s'instaure en elle. Et donc, par exemple, laisser effectivement se véhiculer des valeurs qui seraient sa propre négation, qui seraient une négation de la justice en l'occurrence. Et donc, c'est ce qu'on a vu lors des séances précédentes, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ici que c'est un vrai renversement par rapport aux préjugés sur cette problématique. C'est-à-dire, le renversement, il consiste dans le fait qu'on a l'idée que toute forme d'interrogation et de remise en cause, finalement, des œuvres morales est du côté de la censure et du puritanisme. Et ici, en fait, c'est l'inverse. C'est au nom, finalement, d'une société libre, juste, qu'il s'agit de voir quelles sont les conditions de cette société. Et donc, comment, finalement, les discours que tiennent l'art peuvent éventuellement, de l'intérieur, la pervertir, la remettre en cause. Et du point de vue individuel, parce qu'on l'avait, la question elle a toujours à double fond, comme c'est le cas dans la République de Platon, où il y a la justice dans la cité et la justice dans l'individu, et que les deux sont mis en regard. De la même manière, c'est un peu le parcours qu'on a suivi, c'est-à-dire qu'on peut se le poser sur le plan politique, comme ça, mais on peut se le poser aussi pour soi-même. C'est-à-dire ce même renversement de ce qui peut sembler une contrainte du puritanisme, de la censure à la liberté, il s'opère si on considère que soi-même, on a intérêt, en vue justement de notre propre liberté, de nous interroger sur les œuvres qu'on désire se laisser voir et se laisser entendre. Et donc, de ce point de vue-là, il s'agit de comprendre que le fait de trier ses plaisirs artistiques et les spectacles, ce n'est pas une contrainte, mais c'est justement l'exercice de la liberté qui vise par là à s'assurer des conditions de possibilité de son existence. Si je veux rester libre, justement, il faut que je fasse attention à ce qui peut m'entraîner dans une forme justement de complaisance à moi-même et de, on va dire, d'affaiblissement de ma raison. Donc ça, c'était, si vous voulez, des problématiques qu'on a traitées beaucoup, essentiellement à partir de la lettre à D'Alembert, la lettre sur les spectacles de Rousseau et la République de Platon. Avec l'idée, enfin, ce que je voulais essayer de montrer, c'est que de l'extérieur, ça semble des critiques de l'art, des critiques au sens frontal, alors qu'en fait, évidemment, ce qu'a en vue Platon dans son vocabulaire, c'est finalement un art, c'est de s'opposer à un art tyrannique, qui nous tyranniserait, et Rousseau, c'est ce qu'on pourrait identifier à une forme d'art aristocratique, c'est-à-dire qui justement reproduirait les injustices et les inégalités d'une société constituée. Donc c'est tout ça, en quelque sorte, qui est même pas notre point de départ, que je considère comme le soubassement, l'arrière-fond de maintenant des séances qui vont suivre. Et donc, considérant ceci comme acquis, cette exigence, en quelque sorte, on va considérer qu'elle est acquise, lors du tout dernier cours, parce que je vais faire là pour le coup l'enchaînement précis avec ce qui a été dit, je vais même faire quelques rappels, vous allez voir, on avait tâché, donc lors de la dernière séance, il y a plusieurs mois désormais. Deux, on avait tâché de trouver des incarnations, des applications, si vous voulez, de ces problématiques et de cette exigence dans le cinéma, plus précisément, spécifiquement. Pourquoi dans le cinéma ? C'est pas simplement parce que ça m'intéresse, c'est aussi en tant que le cinéma constituerait l'art populaire par excellence. Alors, populaire, il faut que je le précise, c'est populaire par excellence au double sens du terme. C'est-à-dire, c'est celui qui, aujourd'hui, finalement, serait l'art dominant, au sens où c'est celui qui a le plus d'impact. Une manière simple, et un peu triviale peut-être de le formuler, mais c'est l'idée que tout le monde voit des films aujourd'hui, alors que tout le monde ne va pas nécessairement au théâtre, encore moins au ballet, ou même lit des romans, alors qu'effectivement, le cinéma semble avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus général. C'est l'art qui correspondrait, en quelque sorte, à notre époque. Et deuxième sens, par ailleurs, il serait populaire au sens où, comme on l'avait rapidement formulé donc lors de cette séance précédente, notamment à travers Walter Benjamin, mais surtout on avait vu les cinéastes soviétiques, je pense en l'occurrence à Vertov, il serait populaire au sens où les penseurs et hommes politiques, d'ailleurs, du XXe siècle, furent vite conscients qu'il occupait une place à part. C'est-à-dire qu'il était justement plus en lien avec le peuple et permettait de l'atteindre plus directement. Donc ça, c'est des idées qui sont très présentes chez beaucoup de théoriciens du cinéma, Benjamin pour commencer, mais même, enfin, théoriciens du cinéma affiliés, quelqu'un comme Panofsky s'est beaucoup intéressé à cette question, par exemple. Et pour ce qui est des hommes politiques, le grand modèle de ça, évidemment, c'est en Union soviétique. C'est-à-dire qu'il y a une référence très connue, c'est la phrase de Lénine, qui dit « Le cinéma est pour nous de tous les arts le plus important », voilà, signifiant par là qu'effectivement ça allait être le médium privilégié par l'Union soviétique. Et puis c'est pareil, il y a un texte dont je trouve le titre toujours très amusant de Trotsky, qui s'appelle « La vodka, l'église et le cinématographe ». Pas pour dire que le cinématographe est l'opium du peuple et l'équivalent de l'église et de la vodka, mais au contraire pour dire que le cinématographe doit remplacer ces deux addictions du peuple russe que sont la vodka et l'église. Et donc, à partir de ça, donc de l'importance en quelque sorte, de l'acuité finalement, de la question de la représentation cinématographique aujourd'hui, on a cherché les incarnations nouvelles des thèses qu'on avait posées à partir du théâtre principalement, c'est-à-dire de Rousseau et de Platon. Et donc on avait examiné lors de la dernière séance quelque chose qui va être le point de départ et que je vais essayer de continuer dans ce cours, on avait examiné le cas de Capot. Où le critique et futur cinéaste Rivette retrouvait quelque chose du geste platonicien. Donc là, il va falloir que je rappelle les choses, parce que je pense qu'en plus, c'est pas forcément clair pour tout le monde, et puis c'est, de toute manière, on va en avoir besoin. Mais l'idée, je vais le réexpliquer, mais donc Capot, c'est un film italien qui date de 1961, et qui est le premier film de fiction portant sur les camps de concentration. Il est réalisé par Gillo Pontecorvo. Et lors de sa sortie, Rivette écrit dans les cahiers du cinéma un article qui est devenu extrêmement célèbre. On va essayer de voir pourquoi et comment il a été interprété. Où il critique ce film, mais d'une manière sans embâge ni ambiguïté. Et c'était ça qui m'intéressait lors du dernier cours. C'était que justement, on retrouvait en quelque sorte une posture entre guillemets platonicienne, au sens où c'est quelque chose d'assez rare de voir ceci formulé de manière justement aussi, comment dire, catégorique, c'est-à-dire que Rivette condamnait le film d'une manière non équivoque, c'est-à-dire au nom justement de principes qui ne se discutaient pas. Et donc, l'objectif maintenant, d'aujourd'hui, ce serait à la fois de préciser ce que j'ai dit lors de cette dernière séance, aussi parce que je me suis rendu compte par les questions qui m'ont été adressées que je n'avais pas forcément explicité certaines choses et que donc il y avait des ambiguïtés, et de prolonger ce qui s'est passé à partir de Capot. D'où le titre, en quelque sorte, que j'ai donné à cette séance, en jouant encore une fois sur un pauvre jeu de mots, après le trading de Capot, c'est en deux sens, c'est-à-dire après le trading de Capot dans le film Capot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'autre au-delà de ce travelling dont on va reparler dans un instant et que Rivette condamne, qui fait que le film serait condamnable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en plus du travelling, et après le travelling de Capot, au sens où, après le film Capot, que devient cette exigence? Est-ce que le problème s'est reposé? En quels termes? Et comment justement cette exigence est comprise, notamment dans le débat plus contemporain. Donc c'est un peu l'ambition de ce cours. Alors, Pour commencer, évidemment, je vais rappeler ce que certains savent déjà, à savoir le point de départ de la critique donc de Rivette dans l'étier du cinéma. Alors, le film de Pontecorvo, Capo, a le tort, si vous voulez, aux yeux de Rivette. Alors, il y a plusieurs choses qui lui reprochent. Je vais essayer de serrer un peu les choses. C'est-à-dire que pour vous situer rapidement l'histoire, Capo raconte la déportation d'une jeune fille juive qui, à son arrivée dans les camps, va prendre, grâce à un médecin du camp, l'identité en fait d'une détenue de droit commun. Et donc, ça va lui permettre en fait de devenir Capo, c'est-à-dire parmi les victimes du camp, d'obtenir une forme de privilège, de devenir bourreau parmi les victimes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Pontecorvo a conçu le projet de ce film, il avait en tête le livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Et donc il aspirait justement, comme Primo Levi, à faire œuvre de témoignage et à, donc c'était de très bonnes intentions, à justement informer en quelque sorte, c'est-à-dire à mettre en cinéma la question de l'horreur des camps. Et la difficulté, c'est qu'en même temps, c'était un film. Et que donc, la production lui a adjoint un scénariste, Franco Solinas, qui, sur les injonctions des studios, a de plus en plus tordu le scénario de Pontecorvo vers le mélodrame. Et donc, l'héroïne, qui est jouée par Suzanne Strasberg, se retrouve, dans la deuxième moitié du film, à avoir une histoire d'amour avec violon, avec, en l'occurrence plus précisément, Laurent Terzieff, qui fait des apparitions viriles, torse nu, il coupe du bois, etc. Et donc, il y a effectivement un mauvais goût ambiant qui est complètement perceptible, et qui était perceptible d'ailleurs dès la bande-annonce. C'est-à-dire que si ça vous intéresse, le film a été réédité en DVD il y a quelques années, et dans les bonus du DVD, il y a la bande-annonce du film. Et elle est assez incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous promet de l'émotion, de la passion et de l'action. Donc, ce qu'on avait vu et ce qu'examine Rivette, c'est en gros, donc le texte est mis en ligne sur le site de l'université conventionnelle, c'est deux points de critique, un général et l'un particulier. Le premier, donc c'est ce que j'avais dit, je vais réexpliciter, c'est porté sur l'erreur esthétique du film, à savoir d'avoir voulu défendre une esthétique réaliste. Et donc, l'argument de Rivette consistait à dire que c'était quelque chose qui était non seulement voué à l'échec, mais qui avait des conséquences catastrophiques du point de vue moral. Puisque, en voulant, bon, justement, en suivant en pensée le projet, la ligne Primo Levi, si vous voulez, du scénario initial, ce que faisait Pontecorvo, c'était de donner une représentation des camps qui se voulaient réalistes, mais qui, en même temps, évidemment, était extrêmement loin de l'horreur des camps. Et donc, dit Rivette, le problème, c'est ces termes, c'est que ça faisait que les nazis n'étaient pas si méchants que ça. C'est-à-dire qu'il y avait, dans cette illusion réaliste, un affaiblissement de la réalité qui était dangereux et condamnable, parce qu'en fait, ça faisait comme si cette réalité était supportable. Et donc, ça, si vous voulez, c'est le premier grand paragraphe de l'article, c'est en fait la ligne générale de la critique de Rivette. Et puis il y a une deuxième partie dans l'article, et on va voir que c'est celle-ci qui est restée la plus connue, jusqu'à entraîner en fait des distorsions de lecture. Le deuxième point,